J'ai rêvé de Rachel hier soir. Elle disait « non, non, non ». Et je faisais tout ce qu'il fallait pour transformer ces « non, non, non » en « oui, oui, oui ». Ce n'est pas de ma faute, disais-je dans mon rêve, si tu as des seins aussi parfaits. Dieu ne t'aurait pas donné des seins aussi parfaits s'il avait vraiment voulu que je te laisse tranquille. Ensuite, je pinçais ses tétons, elle se laissait aller en arrière, le souffle court, et je savais que j'étais en train de gagner. Bien sûr que je gagnais. J'étais plus grand, plus fort, plus malin. Alors je l'ai caressé, câliné, cajolé jusqu'à cet instant magique où je me suis enfoncée profondément en elle. Et peut-être qu'elle pleurait un peu, mais quelle importance. Elle haletait aussi, elle se tortillait, et je lui ai donné du plaisir. Je jure que je lui ai donné du plaisir. Dans mon rêve, je sentais la pression monter. Ses jambes qui se nouaient autour de ma taille, ses seins qui frottaient contre ma poitrine. Et j'avais envie. Oh, mon Dieu, ce que j'avais envie. Et là, je me suis réveillée, seule, dure comme de la pierre, furibarde. Je suis sortie du lit encore tout essoufflée, je me suis traînée jusqu'à la douche, j'ai fait couler l'eau à la température maximale, je me suis engouffrée dans la vapeur et j'ai fini mon affaire, parce que quand on est fiché comme pervers à 23 ans, on n'aura pas mieux. Sauf que si, dans ma tête, je peux encore toucher et goûter celle que je désire, celle que j'ai toujours désirée, celle que je ne pourrai jamais avoir. Alors je me branle, et je déteste ça, de bout en bout. Toucher Rachel était pur. Ça, c'est une aberration, une transaction vicieuse, ni plus ni moins. Mais je termine ça, je me lave, je me sèche. Je m'habille sans allumer la lumière, ni regarder dans un miroir, et je sais, avant même de sortir, que ça va être une sale journée, une chienlit. Ma petite vie tranquille appartient au passé. J'attends seulement de voir qui donnera le coup de grâce. Colline a conclu notre entrevue d'hier soir en me recommandant de continuer mon train-train. Oui, la police allait venir me rendre visite. On ne pouvait pas leur en vouloir de se renseigner. Et la Constitution m'accordait évidemment le droit de demander le conseil d'un avocat dès que j'en ressentirais le besoin. Mais je m'en sortais bien. Ma réinsertion était une réussite. Ne lâche pas l'affaire trop facilement. Voilà ce qu'elle m'a dit. Ce qu'elle a voulu dire, c'est que prendre la fuite sera pire que rester. J'avais compris tout seul, merci. Alors, je vais au boulot. 7h30, je suis en salopette bleue, la tête sous le capot d'une vieille Chevrolet dont je retire les bougies. Regardez-moi, le type lambda qui lutte pour un monde meilleur. Ouais, ma petite dame. J'entretiens, je répare, je resserre, en faisant comme si mes mains pleines de lubrifiant ne tremblaient pas comme des feuilles, que mon corps n'était pas encore dur comme de la pierre, ou que je m'étais pas mis dans un état nerveux tel que, pour la première fois de ma vie, je prie vraiment pour qu'aucune femme ne franchisse cette porte parce que je ne réponds plus de mes actes. Je suis dans la merde jusqu'au cou, et il n'est même pas encore 9h. Vito a mis la radio dans l'atelier, une station locale. Elle passe un mélange de musique des années 80 et 90. Beaucoup de Britney Spears et de Justin Timberlake. À 9h15, la nouvelle est diffusée et j'entends pour la première fois l'annonce officielle de la disparition d'une femme à South Boston. Jeune épouse, enseignante appréciée au collège, envolée au milieu de la nuit en laissant derrière elle une petite fille. La police n'y va pas avec le dos de la cuillère. Je finis la Chevrolet et je passe à une grosse Suburban qui a besoin de nouveaux freins arrière. Les autres gars chuchotent maintenant, discutent entre eux. Ah, ça aussi, pas possible. Une histoire de drogue à tous les coups, c'est toujours ça. Non, c'est le mari. Disent contraint que le monsieur avait une petite histoire à côté et qu'il ne se sentait pas de payer une pension alimentaire, connard. J'espère qu'ils le chopperont ce coup-ci. Qui c'était l'an dernier ? Un type dont deux femmes avaient disparu, mais on ne trouvait pas de quoi le poursuivre. Et ça continue encore et encore. Je ne dis rien. Je m'attaque aux écrous de roue avec la clé à choc et je retire tant bien que mal les deux pneus arrière. La vieille Suburban a des freins à tambour, la salope. Je ne prends que vaguement conscience qu'on murmure, qu'on montre du doigt. Je rougis par réflexe, je me prends à bafouiller. Avant de me rendre compte que personne ne me montre du doigt. Il montre le bureau où Vito se trouve avec deux flics. J'ai envie de rentrer à quatre pattes dans l'énorme Suburban. Envie de me fondre dans un monceau de métal, de plastique et de chrome. Au lieu de ça, je fais le tour de la voiture et j'enlève les pneus avant. Comme si j'allais aussi vérifier leurs freins à disque, alors que le bon de commande n'indique rien. « Tu es une réussite », me dis-je tout bas à moi-même. « Une putain de réussite !» Mais j'y crois même plus. Je finis la Suburban, les flics sont partis. Je regarde l'horloge, juge que la pause du milieu de matinée est assez proche. Je vais chercher ma gamelle le déjeuner et trouve Vito devant mon casier, bras croisés sur la poitrine. « Dans mon bureau, tout de suite, » ordonne-t-il. Je ne lutte pas contre Vito. Je retire ma salopette bleue parce que je devine à la tête qu'il fait que je ne vais plus en avoir besoin. Il ne dit rien, se contente de ne pas me quitter des yeux pour s'assurer que le petit copain ne sortira pas de sa ligne de mire. Il n'arrivera rien sous la surveillance de Vito. Quand je suis propre, ma gamelle à la main, mon pull sur le bras, Vito émet finalement un grognement et me conduit dans son bureau. Vito connaît mon passé. Il fait partie de ces employeurs que ça ne dérange pas d'embaucher des délinquants sexuels. Il a du boulot qui ne suppose pas d'être en contact avec la clientèle et comme c'est un grand gaillard baraqué, il s'imagine sans doute qu'il pourra faire filer droit à un gamin comme moi. Pour être juste, il y a des moments où il est vraiment gentil. Qui sait, peut-être qu'employer des criminels répond à sa conception du civisme. Il recueille des intouchables pour en faire des citoyens productifs, tout ça. Je sais pas. Je me fais la réflexion que Vito ne m'a jamais fait me sentir aussi minable, avec ses bras croisés sur sa poitrine, son visage où se lie un mélange de déception et de dégoût. Nous arrivons dans son bureau. Il s'assoit derrière sa table pleine de poussière. Je reste debout parce qu'il n'y a pas d'autre chaise. Il sort le carnet de chèques et se met à écrire. « La police est venue, » dit-il sèchement. Je hoche la tête avant de réaliser qu'il ne regarde pas, alors je me force à répondre à voix haute. « J'ai vu. » « Une femme a disparu. Tu as dû l'entendre aux nouvelles, » dit-il en me vrayant du regard. J'ai entendu. La police voulait savoir si elle faisait entretenir sa voiture ici, si elle ou sa jolie petite fille de 4 ans t'avait rencontré. Je ne dis rien. « Comment tu vas, Aidan ?» aboie brusquement Vito. « Bien, » murmurai-je. « Tu te rends à tes réunions? Tu suis ta thérapie ?»«
Oui. »
« Tu as bu? Ne serait-ce qu'une gorgée ?» « Dis-moi la vérité, petit con, parce que je le saurais si tu as menti. Je suis chez moi dans cette ville. Tout ce qui concerne Saouzi me regarde. Si on fait du mal à quelqu'un, on me fait du mal à moi. » « Je n'ai rien fait. Vraiment. Ce n'est pas la vie de la police. » Je me tords les mains. Je ne veux pas. Ce geste me fait honte. Je suis là, à 23 ans, réduit à ramper la tête basse devant un homme qui peut m'assommer d'une claque de sa main en battoir. Il est assis, je suis debout, il détient le pouvoir. J'implore sa pitié. À cet instant, je hais mon existence. Puis je hais Rachel, parce que si elle n'avait pas été aussi mignonne, aussi mûre, aussi là, peut-être que tout ça ne serait jamais arrivé. Peut-être que je serais tombée amoureux d'une de ces garces de pom-pom girl sur les terrains de foot, ou même de la fille aux dents légèrement en avant qui bossait pour le traiteur du quartier. Je sais pas, quelqu'un de plus convenable. Quelqu'un avec qui la bonne société aurait jugé qu'un jeune homme de 19 ans pouvait coucher. Et alors je ne serais pas dans cette merde. Non, j'aurais eu une chance de devenir quelqu'un. Ce n'est pas moi, m'entends-je dire. Vito se contente de grogner, de me regarder avec ses petits yeux de fouine. Son arrogance commence à me faire chier. Je suis passée 6 fois au détecteur de mensonges sans rien avouer. Tu parles si je vais craquer devant un mécano mal dégrossi. Je croise son regard. Je le soutiens. Et je vois qu'il sait que je suis en colère, mais que ça l'amuse plutôt qu'autre chose, ce qui m'énerve doublement. Je serre les poings et je pense un instant que si ça continue comme ça, je vais lui envoyer mon poing dans la gueule. Ou peut-être pas dans la gueule, peut-être dans le mur. Mais peut-être pas, peut-être dans la vitre. Ça va me démolir la main et me réveiller dans un concert d'eau brisée et de chair lacérée. Et c'est ce qu'il me faut. Un bon signal de réveil pour que je sorte de ce cauchemar. Vito me lorgne, puis grommelle et détache le chèque. La paie de ta dernière semaine, annonce-t-il. Prends-la, t'es viré. Je garde les poings serrés. Ce n'est pas moi, dis-je encore. Vito secoue la tête. Peu importe, tu travailles ici, elle faisait entretenir sa voiture ici. C'est un garage, petit con, pas la foire aux monstres. J'ai pas le temps de laver ton linge sale tous les matins. Il pose le chèque sur la table et le pousse du doigt vers moi. Prends-le ou laisse-le, de toute façon tu es viré. Alors je le prends, évidemment. Je m'en vais et j'entends Vito beugler aux autres mécaniciens de se remettre au boulot. Et ensuite je les entends tous commencer à chuchoter. Ce n'est pas fini, comprends-je alors. Vito va leur dire la vérité. 3 hommes bien virils vont apprendre qu'ils ont travaillé jour après jour avec un pervers. Et maintenant qu'une femme a disparu, ils vont se mettre à faire des raisonnements. Le genre de ceux où tout d'un coup, 2 et 2 font 5. Ils vont venir me casser la gueule. Bientôt. Très bientôt. J'essaie moi aussi de raisonner dans ma tête affolée ou bas le sang. Si je m'enfuis, je me ferai arrêter par la police et mettre en taule définitivement. Si je reste, je me ferais tabasser par la bande de gros durs et sans doute châtrer définitivement. J'opte pour la fuite avant de m'apercevoir que cela n'a pas d'importance parce que, même avec le misérable chèque de Vito, je n'ai toujours pas assez d'argent. Puis je sens mon agitation grandir, grandir, grandir toujours, jusqu'à ce que je me retrouve pratiquement à courir dans la rue. Je croise une minette avec un parfum de fleurs et je cours plus vite avec son parfum dans le nez et une douzaine de fantasmes inavouables dans la tête et je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver. La plus belle réussite du système est sur le point de craquer. Ouais, ma petite dame, le gamin va péter un câble.